Esquisse d'une critique de l'économie politique par Friedrich Engels. La constitution de l'économie politique est une conséquence naturelle de l'expansion du commerce. Un système parfait de la tromperie institutionnalisée, une science complète de l'enrichissement, vient ainsi remplacer le négoce simple, non scientifique. Cette économie politique, ou science de l'enrichissement, est née de la jalousie réciproque et de la cupidité des commerçants. Elle est marquée du sceau de l'égoïsme le plus répugnant. Au début, on vivait encore dans la croyance naïve que l'or et l'argent constituent la richesse. On pensait que la première chose à faire était d'interdire partout l'exportation des métaux précieux. Les peuples se comportaient comme des avares, entourant de leurs bras leurs chers trésors. Chacun d'eux regardait ses voisins avec envie, avec défiance. Tous les moyens étaient bons pour soutirer aux nations avec lesquelles on commerçait le plus possible d'argent comptant, et bien retenir en deçà de la ligne des douanes ce qu'on avait été heureux à faire entrer. L'application intégrale de ce principe aurait tué le commerce. On dépassa donc ce premier stade. On comprit que tant qu'il demeure dans les caisses, le capital dort, alors qu'il ne cesse de s'accroître dans la circulation. On devint plus philanthropique. On envoya ses ducats au dehors pour en piper d'autres. On reconnut qu'il n'y a pas grand mal à payer à A ses marchandises trop chères, si l'on peut les expédier chez B à un prix plus élevé encore. C'est sur cette base que s'éleva le système mercantile. Le caractère cupide du commerce fut quelque peu dissimulé. Les nations ont tenté de se rapprocher. Elles ont conclu des traités de commerce et d'amitié. Elles ont trafiqué. Et, pour gagner davantage, elles ont affiché toute l'amabilité, toute la bienveillance possible. Mais, au fond, subsistait toujours l'ancienne cupidité. De temps en temps, elle se traduisait par des guerres qui, toutes, à cette époque, avaient leur origine dans la fureur commerciale. Ces guerres nous démontrent que la négoce, comme le vol, se fonde sur le droit du plus fort. On ne se fait aucun scrupule d'arracher par la violence ou par la fraude les traités que l'on tient pour les plus favorables. C'est la théorie de la balance du commerce qui forme le point essentiel du système mercantile. Toujours on part de la proposition suivante. L'or et l'argent constituent la richesse. Aussi, sont seules jugées avantageuses les affaires qui font rentrer de l'argent comptant dans le pays. On raisonne en comparant l'exportation et l'importation. Si l'on a plus exporté qu'importé, on croit que la différence en argent comptant est rentrée dans le pays. On s'imagine être plus riche de cet excès. Tout l'art économique consiste donc à faire en sorte qu'à la fin de chaque année, la balance du commerce soit en faveur de l'exportation au détriment de l'importation. C'est au nom de cette ridicule illusion que des milliers d'hommes ont été massacrés. Le commerce a lui aussi ses croisades et son inquisition. Le XVIIIe siècle, le siècle de la Révolution, révolutionne aussi l'économie. Mais toutes les révolutions de cette époque étaient unilatérales et restaient contradictoires. Au spiritualisme abstrait, on opposa le matérialisme abstrait. À la monarchie, la République. Au droit divin, le contrat social. De même, la révolution économique, elle aussi n'a pas pu dépasser la contradiction. Les fondements n'ont pas été contestés. Le matérialisme n'attaqua pas le mépris qu'ont les chrétiens pour l'homme, l'abaissement où ils veulent le tenir. Il a maintenu l'opposition entre l'homme et l'absolu. À la place du Dieu chrétien, il a mis la nature. La politique ne songea pas à mettre en question les fondements de l'État en soi et pour soi. De même, l'économie ne se soucia guère de critiquer la légitimité de la propriété privée. Aussi, cette nouvelle économie ne constitua-t-elle qu'un demi-progrès. Il a fallu trahir, renier ses propres présuppositions, appeler à son aide l'hypocrisie et la sophistique, pour dissimuler les contradictions où elle se débattait. Les conclusions auxquelles elle s'est amenée ne s'expliquant pas par ses propres présuppositions, mais par l'esprit humanitaire du siècle. L'économie prit ainsi un caractère philanthropique. Elle a retiré sa faveur au producteur pour l'accorder au consommateur. elle a affiché une horreur sacrée pour les atrocités sanglantes du système mercantile. Elle a déclaré que le commerce est un lien d'amitié et d'union entre les nations comme entre les individus. Tout n'est plus que noblesse et générosité. Mais ces présuppositions n'ont pas tardé à prévaloir de nouveau. En l'encontre de cette philanthropie hypocrite, elles suscitèrent la théorie de la population de Malthus, le plus barbare et le plus cruel des systèmes qui ait jamais existé. Doctrine de désespoir qui jette bas les belles phrases sur l'amour du prochain et la fraternité universelle. Elles suscitèrent aussi le système des fabriques et l'esclavage moderne, qui pour la cruauté et l'inhumanité n'a rien à envier à l'esclavage antique. La nouvelle économie, le système de la liberté du commerce, fondé sur l'essai sur la richesse des nations d'Adam Smith, présente la même hypocrisie, la même inconséquence, la même immoralité qui, maintenant, dans tous les domaines, s'oppose à la liberté humaine. Mais le système de Smith ne constitue-t-il pas un progrès ? Sans doute est un progrès nécessaire. Il était nécessaire que le mercantilisme, avec ses monopoles et ses entraves commerciales, fût renversé pour qu'apparaissent au jour les véritables effets de la propriété privée. Il était nécessaire que toutes ces mesquines considérations locales et nationales disparussent pour que le combat de notre temps devienne un combat universel, humain. Il était nécessaire que la théorie de la propriété privée quitte la voie purement empirique de la recherche, uniquement objective, et prenne un caractère scientifique, qui la rendit aussi responsable des conséquences. La question fut ainsi transposée dans une sphère universelle, humaine. De même, en tentant de nier l'inhumanité contenue dans l'ancienne économie, on a eu nécessairement recours à l'hypocrisie, et on n'a fait que porter cette immoralité à son comble. Cette nécessité était inscrite dans la nature même de la chose. Nous reconnaissons volontiers que seul l'établissement de la liberté du commerce nous a permis d'aller au-delà de l'économie basée sur la propriété privée. Mais, en même temps, nous nous croyons autorisés d'exposer cette liberté du commerce dans sa parfaite nullité théorique et pratique. Plus les économistes que nous avons à examiner sont nos contemporains, plus notre jugement devra être sévère. Smith et Malthus n'avaient devant eux que quelques fragments, tandis que leurs successeurs avaient sous leurs yeux le système entier pleinement développé. Toutes les conséquences étaient tirées, les contradictions sortaient à la lumière. Néanmoins, ils ne songèrent pas à examiner leurs prémices, et ils n'hésitèrent pas à assumer la responsabilité de tout le système. Plus les économistes se rapprochent de nous, moins ils sont honorables. Plus le temps avance, plus la sophistique progresse. Il faut maintenir l'économie en accord avec l'époque. Aussi Ricardo, par exemple, est-il plus coupable qu'Adam Smith, McCulloch et Mill, plus coupable encore que Ricardo. L'économie moderne n'est pas capable de porter un jugement correct sur le système mercantile parce qu'elle-même est encore unilatérale et reste emprisonnée dans les mêmes présuppositions. Pour situer exactement le mercantilisme et l'économie moderne, il faut dépasser la contradiction des deux systèmes, s'élever à la critique de leur fondement commun, partir d'un principe universel, purement humain. Si l'on se place de ce point de vue, il apparaît que ces défenseurs de la liberté du commerce sont des monopolistes dangereux, plus dangereux que les mercantilistes eux-mêmes. On voit que, derrière la fausse humanité des modernes, se dissimule une barbarie ignorée de leurs prédécesseurs. L'erreur de ceux-ci est encore simple et conséquente, si on la compare à la logique équivoque de leurs adversaires. Aucun des deux partis ne peut faire à son rival un reproche qui ne retombe également sur lui. C'est pourquoi l'économie libérale la plus moderne se révèle incapable de comprendre la restauration du système mercantile par Liszt. Or la chose est toute simple pour nous. L'inconséquence et l'ambiguïté de l'économie libérale la poussent nécessairement à se dissoudre en ses parties constitutives fondamentales. De même que la théologie mène fatalement soit à la foi aveugle, soit à la philosophie libre. De même, la liberté du commerce conduit nécessairement, d'une part, à la restauration des monopoles, de l'autre, à la suppression de la propriété privée. L'économie libérale a développé les lois de la propriété privée. c'est le seul progrès positif qu'elle ait fait. Sans les pousser jusqu'à leurs dernières conséquences, sans les exprimer très clairement, cette doctrine les expose néanmoins. Ainsi, sur tous les points où il s'agit de décider quelle est la manière la plus prompte de devenir riche, c'est-à-dire dans toutes les controverses strictement économiques, les défenseurs de la liberté du commerce ont raison. Entendons-nous. Ils ont raison dans les controverses soutenues contre les monopolistes et non contre les adversaires de la propriété privée. Depuis longtemps, en effet, les socialistes anglais ont prouvé pratiquement et théoriquement que les adversaires de la propriété privée étaient capables, même au point de vue économique, de résoudre avec plus d'exactitude les questions économiques. Dans notre critique de l'économie politique, nous étudierons donc les catégories fondamentales. Nous dévoilerons la contradiction introduite par le système de la liberté du commerce, et nous tirerons enfin les conséquences des deux termes de la contradiction. L'expression « richesse nationale » est née de la propension à la généralisation des économistes libéraux. Tant que subsiste la propriété privée, ce terme n'a pas de sens. La « richesse nationale » des Anglais est fort grande. Il n'en forme pas moins la nation la plus pauvre du monde. Il faut donc ou bien laisser complètement tomber l'expression, ou bien admettre ses prémices qui lui donnent un sens. Il en est de même des termes « économie nationale », »,« économie politique », »,« économie publique ». Dans les conditions actuelles, cette science devrait s'appeler « économie privée », puisque tous les rapports publics dont elle s'occupe n'existent qu'en fonction de la propriété privée. L'échange des utilités, l'achat et la vente, le commerce, voilà la conséquence première de la propriété privée. Sous son règne, le commerce, comme toute autre activité, doit constituer pour celui qui l'exerce une source directe d'enrichissement. Chacun doit chercher à vendre au plus cher possible et se forcer d'acquérir au plus bas prix. Dans tout achat, dans toute vente se confrontent donc deux hommes ayant les intérêts absolument opposés. Le rapport est décidément hostile. Chacun connaît en effet les intérêts de son rival et sait qu'ils sont opposés aux siens. Il s'ensuit d'abord une défiance réciproque, puis la justification de cette défiance. L'emploi des moyens immoraux pour atteindre un but immoral. Par exemple, le premier principe du commerce est de taire, de cacher tout ce qui peut abaisser la valeur d'un article. Par conséquent, il est permis dans le commerce de profiter le plus possible de l'ignorance et de la confiance de la partie adverse, et même d'attribuer à sa marchandise des qualités qu'elle n'a pas. Bref, le commerce, c'est la tromperie légale. S'il veut respecter la vérité, tout marchand témoignera que la pratique s'accorde avec cette théorie.